Nous aurons les lectures qui seront la base pour le message que Philippe nous apportera tout à l'heure. Nous lisons dans le livre de Luc, l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 11, les versets 37. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premières places dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Et Jésus répondit, « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles, de fardeaux à porter, et que vous ne touchez vous-même, que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts.
Malheur à vous, vous ressemblez à ces tombes que rien ne signale au regard et sur lesquelles on passe sans s'en douter. Là-dessus, un enseignant de la loi se mit à protester en disant, « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » Oui. Malheur à vous aussi, enseignant de la loi, lui répondit Jésus. Vous imposez aux gens des fardeaux accablants, mais vous-même, vous n'y touchez pas du petit doigt. Malheur à vous, parce que vous édifiez des monuments funéraires pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez clairement par là que vous approuvez ce que vos ancêtres ont fait. Eux, ils ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré « Je leur enverrai des prophètes et des messagers. Ils tueront les uns, ils persécuteront les autres. » C'est pourquoi les gens de notre temps auront à répondre du meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis le commencement du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie, assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. Oui, je vous l'assure, les hommes de notre temps auront à répondre de tous ces crimes. Malheur à vous, enseignants de la loi, vous vous êtes emparés de la clé de la connaissance. Non seulement vous n'entrerez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Quand Jésus fut sorti de la maison, les spécialistes de la loi et les pharisiens s'acharnèrent contre lui et le harcelèrent de questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient ainsi des pièges pour trouver dans ses paroles un motif d'accusation.
Dans 2 Timothée, au chapitre 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère.
Bonjour. J'ai l'idée que les deux textes qui vous ont été lus vous orientent déjà un peu sur le thème que nous allons traiter. Et j'avais intitulé cette réflexion le couple amour et vérité fait-il bon ménage ? En fait, je suis personnellement étonné à la lecture de certains passages, notamment celui que nous venons de lire, où il est fait mention de véritables volées de bois vert que Jésus passe à des gens qui, à première vue, ne l'ont pas forcément agressé. Et mon étonnement trouve un peu son origine dans le fait que, depuis ma plus tendre enfance, j'ai associé le terme « amour de Dieu », « amour du Christ », c'est l'identité de Dieu. Dieu est amour, nous l'avons entendu depuis longtemps et nous méditons souvent ces éléments. Donc on associe amour de Dieu avec une certaine douceur, une certaine conciliation, voire, je dirais entre guillemets, une certaine gentillesse de Dieu, parce que, évidemment, on prêche un Dieu qui n'est pas un Dieu agressif et dur, et je me dis toujours que si je veux partager l'Évangile, que je veux partager l'espérance que j'ai en Christ, dans le nom de Christ, il me paraît normal de parler d'un Dieu comme d'un Dieu amour qui ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie. C'est tout à fait biblique, je crois. Et donc je suis plutôt enclin à présenter Dieu comme un créateur, je dirais, doux et, disons, agréable à vivre, si l'on peut dire. Si je préconisais de partager mon espérance en commençant ou en disant que « Attention, mon petit, Dieu t'attend au contour », je ne suis pas très sûr qu'on aurait de bons résultats, donc je me sens aussi conforté dans cette idée par le fait que Jésus est présenté, Jésus donc l'incarnation visible du Dieu invisible, l'incarnation de ce Dieu d'amour, est comparé à un agneau, animal probablement plus craintif qu'agressif, sous réserve des précisions que peut nous donner Michel Cretny, évidemment. En fait, je me pose deux questions. Est-ce qu'en notre qualité d'enfant adopté de Dieu, ambassadeur du Christ, est-ce que nous devons nous efforcer d'être agréables avec les gens que nous côtoyons pour partager notre espérance, pour évangéliser, comme on dit? Deuxième question, comment comprendre, à la lumière du texte que nous avons lu, le premier texte, que Jésus a pris délibérément l'option de démolir l'ambiance d'un repas auquel il a été invité? Et il a démoli cette ambiance avec des paroles extrêmement dures, blessantes. Et donc, il nous faut examiner cette curieuse digression. Et je propose juste de dire un mot sur une explication très succincte sur deux mots qui sont très galvaudés aujourd'hui, le mot « amour » et le mot « vérité ». Alors, je me suis penché, je vais raccourcir un peu cela parce que le temps passe, mais je me suis intéressé à savoir ce que disaient certains dictionnaires, certains ouvrages de référence sur le mot « amour ». Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui sur le mot « amour » ? Alors bon, j'ai consulté des ouvrages, notamment un ancien dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Émile Littré, qui est un très ancien dictionnaire qui a été imprimé en 1860 et quelques, et puis qui a beaucoup d'exemples de citations littéraires, etc. Il y en a des pages. Bon, alors, je résume très succinctement. L'amour, c'est d'abord un sentiment, c'est un lien, et c'est un attachement. Et puis, j'ai compulsé d'autres ouvrages qui disent c'est sans être théologien que je dis ça, mais que le grec ancien parlait de l'amour comme quatre composantes, quatre possibilités de compréhension, et il disait que l'amour peut avoir une composante totalement marchande et sans aucun sentiment. Le terme, je ne sais même pas comment on le prononce, mais je l'ai lu comme porneia, auquel est associé aujourd'hui le terme, par exemple, pornographie, qui n'est pas l'expression d'un sentiment particulier. Il y a l'amour de la passion humaine qui est associé au terme eros, qui donne aujourd'hui le terme érotisme, qui est plutôt l'amour du couple, et puis il y a l'amour plutôt de la convivialité que nous brandissons beaucoup, l'amour agapé, agapé, fraternité, amour amitié conviviale, et enfin l'amour humaniste, qui est celui qui éprouve de l'amour pour l'humanité, philia, d'où vient philanthropie, etc. Alors, je ne m'attarde pas là-dessus, mais disons simplement que l'amour a quelque chose de religieux. Le terme amour comporte une dimension religieuse dans le sens de mettre en relation. Mettre en relation. Pour nous chrétiens, eh bien, la religion, c'est la nature du lien, la nature de la relation que nous avons avec Dieu. On sait qu'il existe malheureusement de fausses religions qui relient les humains non pas avec Dieu, mais avec des créatures et par des liens tels que l'adoration, la vénération, l'allégeance, donc la soumission pour ne pas dire l'asservissement. Et lorsque je dis créature, ça peut être des objets ou des êtres vivants, mais aussi le monde spirituel, des esprits opposés à Dieu, donc avec le lien de type magique, etc. En ce qui concerne la vérité, alors deuxième terme associé que nous étudions, on pourrait gloser pendant une bonne centaine d'heures sur ce terme. Alors moi je vais résumer en une phrase, disons que le terme vérité évoque ce qui est vrai pour toute l'humanité. La réalité ultime qui ne dépend pas de notre sentiment, de notre sensation, de notre perception individuelle. Alors pour prendre un petit exemple bien connu, on a tous appris à l'école que, par exemple, nous sommes tous soumis à une loi qu'on appelle, que les physiciens appellent la gravitation, qui est un peu c'est ce qui donne le poids aux objets. Alors, même si on ne comprend rien aux calculs qui permettent de déterminer ces forces, on laisse ça aux mathématiciens et aux physiciens, on y est tous soumis indépendamment de notre état d'âme. Et donc, si depuis ce matin, je décide de croire que ce qui me retient les pieds sur terre, c'est le poids de l'air accumulé au-dessus de ma tête, ce qui est faux, bah, ça ne m'empêche pas de vivre, mais je crois à une fausse doctrine sur un plan technique. Alors, dans le domaine spirituel, ce n'est pas une loi physique qui est en jeu, et les conséquences de croire en la vérité ou en autre chose sont beaucoup plus graves, puisque, en fait, il s'agit spirituellement d'une question de vie ou de mort. Alors, quand on prend le premier texte de Luc, on voit que l'amour incarné en Jésus n'est pas un amour relatif d'un être humain à un autre, plus ou moins élaboré ou plus ou moins intense entre une personne et une autre. Le ministère de Jésus exprime l'amour de Dieu envers tout le genre humain, dans sa totalité. C'est donc la vérité, dans le sens où ça concerne toute l'humanité, indépendamment de la perception que nous en avons. En Jésus se conjugue vraiment l'amour et la vérité, un repas qui commence très mal. Parce qu'en fait, Jésus a été invité chez un pharisien, il a accepté l'invitation et ils se sont mis à table. Nous n'avons pas lu quelques versets, parce que j'en fais un bref commentaire maintenant. Ce repas commence très mal et finit encore plus mal, parce que Jésus va vraiment ramasser, comme on dit, son hôte. En substance, Jésus est invité, il entre chez le pharisien, et il ne se lave pas les mains avant le repas. Son hôte s'en étonne. Le texte ne nous dit que ça. Son hôte s'en étonna. L'hôte, le pharisien qui invite, a objectivement de quoi s'étonner, parce qu'il sait que Jésus est un rabbi, un maître religieux, connu, réputé, et qui par conséquent connaît la Torah, et qui par conséquent connaît les règles des ablutions rituelles qui nécessitent qu'on se purifie les mains avant de se mettre à table. Et c'est une coutume religieuse, mais elle existe encore plus ou moins au milieu de nous. C'est une coutume que nous avons fréquemment. Je me souviens, en tout cas moi, que j'enseignais à mes enfants petits qui se lavent les mains avant de manger, pour une raison de simple hygiène. Et le texte dit seulement que le pharisien s'en est étonné. Alors, est-ce qu'il a fait une remarque ? Est-ce qu'il a eu une intonation plus ou moins brusque ? On n'en sait rien. Je fais cette observation en passant pour souligner que l'impact de nos paroles dépend beaucoup de la manière dont nous les formulons. Alors, j'imagine, essayons de nous imaginer la formulation de cette remarque. Première manière de faire, le pharisien voit Jésus se mettre à table, en fait sur des sofas, on n'était pas tout à fait assis devant la table comme nous, mais on se couchait plutôt. Il s'installe et le pharisien lui dit « Rabbi, tu ne te laves pas les mains ?» C'est une remarque qui présente l'étonnement. Autre formulation, « Quel porc !» Si c'est ça un rabbi, un enseignant qui n'est pas fichu de savoir même que la base de la Torah, le minimum, c'est qu'on se lave les mains avant le repas. Vous voyez, c'est juste pour illustrer, pour dire l'intonation change tout. D'après le contenu, moi je ne peux pas imaginer Jésus insultant son hôte. Je ne peux pas l'imaginer. C'est le contexte. C'est d'entendre et de voir l'attitude qui nous renseigne sur ce qui se passe. Je suppose personnellement que ce n'est pas la colère d'une vexation qui est en jeu dans le discours et la réponse terrible de Jésus, il faut le dire, mais c'est une indignation de Jésus face à l'application erronée du commandement. Jésus fait un recadrage du sens de la loi en s'appuyant sur cette remarque qu'on ignore, mais enfin, Jésus va faire un recadrage. Il m'est parfois arrivé de dire des choses difficiles à des gens, à une personne qui est en face de moi dans mon travail, et je dois dire entre guillemets la vérité à cette personne. Cette vérité risque d'être pénible à entendre. Comment faire ? La vérité entre guillemets en question n'a de valeur que si elle est recevable. Asséner une vérité avec la bonne conscience, sans se soucier d'avoir cassé des branches autour de soi, ne mène qu'à la rancœur. Si la vérité risque de casser la relation définitivement, comment faut-il faire ? Est-ce que Jésus a manqué d'amour ? Est-ce qu'il a manqué de sensibilité pour avoir suscité autant de fureur ? Rien dans le texte n'indique que le ton de Jésus a été violent, mais il faut reconnaître que le message est d'une certaine violence. Malheur à vous, hypocrite, insensé. Enfin, je ne sais pas quand on m'invite, je ne sais pas comment vous êtes, mais j'aurais de la peine à me comporter comme ça si je suis invité chez mes amis, l'un ou l'autre de vous. Quelle ambiance, quelle belle agape, hein, si nos repas communautaires tournaient au vinaigre. À ce point, ça serait vraiment du propre. Hein. Et à la fin, même les scribes, qui sont un peu les associés des pharisiens, les scribes sont un peu ceux qui étudient la doctrine, les scribes font une remarque en lui disant « Mais en parlant comme ça, c'est aussi nous que tu insultes. » Et Jésus en rajoute une couche. Oui, justement vous les scribes. Et Jésus leur passe une avoinée d'enfer, comme on dit dans le langage populaire, et tout le monde est furieux. Ce repas est une catastrophe. Alors, je me suis dit, mais bon, comment ça se fait, ce Dieu d'amour qui passe une avoinée à ce point ? C'est quand même un peu bizarre. Il nous faut peut-être nous rappeler, et au fond, la mission de Jésus n'a pas consisté à distraire les gens, mais à les instruire. Et nous savons qu'il a adapté la formulation de son message avec une grande délicatesse auprès d'une femme qui lui avait mis du parfum sur les pieds, qui pleurait, qui avait une conduite incroyable, qui pleurnichait, qui lui essuyait les pieds avec les cheveux, enfin une conduite un peu bizarre dans un repas, et il l'a loué, et il l'a prise en exemple, avec une grande délicatesse, et même, il avait montré une grande complaisance envers une femme, c'était envers une autre femme qui lui a dit « Oui, j'ai pas de mari, je suis célibataire. » Et puis Jésus dit « Oui, en fait, tu as eu 5 maris. Puis l'homme avec qui tu vis, c'est pas ton mari. Mais en cela, tu as dit la vérité. » Enfin, c'est frappant. Enfin, je sais pas, mais ce contraste entre l'avoinée aux pharisiens et puis la douceur envers ces deux personnes sont très frappantes. Pourquoi Jésus est-il si compatissant envers les uns et si sévère et dur envers les autres? Est-ce aléatoire? Est-ce son humeur qui est en jeu? Est-ce qu'il entend appliquer un régime à deux poids, deux mesures envers ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui plaisent pas? Personnellement, je pense que c'est beaucoup plus que deux poids, deux mesures. Nous en avons un indice intéressant dans la parabole du serviteur infidèle. Je ne vais pas la lire, on n'a pas trop peu de temps, mais il y a juste une conclusion qui est très intéressante et qui va nous éclairer. La conclusion de cette parabole dit ceci, Luc 12, verset 47, vous pourrez lire chez vous. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. On n'y allait pas avec le dos de la cuillère, mais enfin, dans la parabole, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, n'ayant pas connu la volonté de son maître, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Alors, il est évident que lors du fameux repas avec les pharisiens et les scribes, ces derniers, scribes et pharisiens, représentent ceux qui ont beaucoup reçu. Ce sont ceux qui ont reçu tout le conseil de Dieu et qui connaissent l'intention de Dieu mieux que quiconque. Et ils sont tout à fait conscients de ce que veut leur maître, puisque c'est écrit noir sur blanc dans leur Torah qu'ils enseignent. Et par contre, donc les femmes étrangères dont on a parlé et auxquelles Jésus s'est adressé avec délicatesse, elles n'ont pas cette connaissance. Donc, les scribes et les pharisiens méritent un grand nombre de coups, et les femmes étrangères, ou étrangères en tout cas à la vie spirituelle du moment, ne méritent pas un grand coup, parce qu'il y a une espèce de proportionnalité entre la sévérité du châtiment et la conscience de la volonté de Dieu. Alors on va vite regarder quelques éléments d'actualité pour nous, en pensant à notre second texte. Paul exhorte Timothée à faire œuvre d'un bon évangéliste. Fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Tous les verbes de la pédagogie sont dans cette explication. Proclamer, insister envers et contre tout, convaincre, réprimander, encourager, et tout cela avec une grande patience. Il en faut de la patience. Il y a deux choses qui se complètent dans cette pédagogie qu'on peut actualiser. D'abord, un impératif. Il faut partager l'espérance qui est attachée au nom de Jésus-Christ. Le faire avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non, sans faire exprès de mettre les pieds dans le plat, mais il y a de la marge. Même si les circonstances ne sont pas toujours favorables au témoignage, il faut tout de même essayer. Être un peu comme un autre dictionnaire que j'avais dans mon pupitre quand j'étais à l'école, un dictionnaire qui s'appelle Larousse, qui existe toujours, dont l'emblème est une petite fleur de pissenlit, ces fleurs toutes minces. Et le dicton, le petit proverbe, c'est « je sème à tout vent ». C'est le vent qui pousse les graines, comme ça. J'aime bien cette petite allégorie. Je sème à tout vent. Bien, ok. Peut-être qu'une partie germera. Je sème, Dieu fera germer. Ensuite, il y a un constat. Ça va devenir difficile. L'insistance et la patience vont être peut-être nécessaires, car dans un temps d'apostasie, dans un temps de rejet des valeurs chrétiennes, qui ressemble un peu aux nôtres, les hommes seront enclins à désirer l'agrément, à désirer des messages qui font plaisir. Donc, d'accord d'être enseignés pour autant que la doctrine leur caresse agréablement les oreilles, prêts à entendre un évangile pour autant qu'il les conforte dans leur manière de voir la vie et de se voir eux-mêmes. Mais comme l'évangile impose la repentance, ils ne supporteront plus la saine doctrine. On ne peut pas faire l'économie de la repentance pour être sauvé, et ça ne plaît pas. Alors il y a une grande tentation à laquelle nous ne devons pas céder. Eh bien, ce serait de succomber à cette idée qu'il faut communiquer un évangile plaisant au monde, de manière à le rendre acceptable au canon de ce monde. Grave erreur. Intuitivement, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de désespérant alors. Si on doit partager un message qui ne sera pas compris, qui va faire fuir tout le monde, il ne faut pas insister. Si les gens disqualifient le message, alors à quoi bon? On casse la relation. Ou bien si les gens veulent croire à autre chose, hein, comme moi qui voulais croire que ce qui me tient debout, c'est pas la gravité, mais le poids de l'air qui me tient debout. Je crois une fausse doctrine, mais enfin, ça m'empêche pas de vivre. C'est un peu le même raisonnement que nous tient le monde aujourd'hui. Bon, attendez, le christianisme, vous êtes bien gentil, il y a d'autres choses qui nous font tenir debout. On n'a pas besoin de votre opinion. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, on pourrait se dire, mais c'est désespérant de partager l'évangile, parce que ça ne caresse pas agréablement les oreilles des gens de notre temps. Mais il y a une autre manière de penser. En l'occurrence, il vaut la peine d'insister, car même si les gens disqualifient le message, parce qu'ils ne le comprennent peut-être pas, eh bien, ils ne pourront pas disqualifier l'attitude et l'amour qui va avec. Nous avons vu que l'amour et la vérité font vraiment ménage commun. Ça doit vraiment aller ensemble. N'oublions pas que si quelqu'un a de la peine à accepter le message, il ne pourra pas résister à un véritable amour qui insiste pour sauver avec l'aide de l'Esprit-Saint. Et une personne peut changer beaucoup plus par l'attitude d'un messager que par le contenu doctrinal. Parfois, on le voit dans des témoignages. J'ai eu affaire à des gens que l'on pourrait qualifier d'insupportables. C'est le genre de gens qui vous demandent un conseil et qui, aussitôt que vous l'avez donné, ils vous disent que vous êtes nul. Et puis, ils insistent lourdement pour vous dire « Mais écoutez, tout effort que vous ferez pour moi est voué à l'échec, parce que vous ne vous rendez pas compte, c'est grâce à ma misère que vous gagnez votre vie. » Donc, on sait bien que vous valez rien. Et puis, de toute manière, si on va mieux, c'est vous qui serez au chômage. Et moi, j'en ai entendu de toutes les couleurs, hein, de ce genre-là. Et ils font tout pour vous dissuader de vous intéresser à eux, tout pour vous dissuader de vous dégoûter de s'attacher à eux. En réalité, ces personnes testent la solidité de votre amour. Il veut juste savoir si vous êtes capable de les aimer quand ils se montrent insupportables aussi. Donc, si par la grâce de Dieu, avec un amour véritable, sincère, on peut leur dire « Écoutez, j'ai le sentiment que vous n'avez pas trop envie de ce contact, puis le conseil que vous demandez, peut-être vous avez de la peine à l'accepter, ou bien vous aimeriez que je vous rejette. Mais au fond, non, j'ai pas envie de vous rejeter parce que je tiens à vous. » Là, ça peut provoquer un effondrement extraordinaire de ce de cette espèce de rapport de force. Ils arrêtent de vous démolir, ils ont compris que l'amour est plus fort que la mort. Alors à supposer qu'il faille choisir, il vaut mieux être disqualifié par le monde pour avoir dispensé droitement les raisons d'espérer en Jésus-Christ, sachant que l'amour aura un impact, si la doctrine n'a pas tout de suite un impact, plutôt que de chercher à plaire avec un message vidé de sa substance, dont on ne sait plus comment sortir après. L'apôtre Paul, avant sa conversion, incarne bien la vérité sans amour. Cela donnait un combat fanatique. Il mettait en prison les gens pour la bonne doctrine. Bon, ça n'a pas fait beaucoup de bien. Nous, au XXIe siècle, on risque de tomber dans le travers opposé. C'est annoncer l'amour sans la vérité. Adapter le message au monde de manière à ne pas déplaire, avec le risque de tomber dans un sentimentalisme stérile. Le modèle d'attitude par excellence se trouve en Jésus, qui mène un combat féroce et sans concession contre le mal, mais avec un amour adapté à la conscience des gens qu'il a en face de lui et qui les rend aptes à réfléchir, ceux-là même les plus endurcis. Qu'il nous aide à manifester sa présence au monde de cette manière. Amen.